d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et vous écoutez l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir par des militants de l'association Attac et des militants du journal Le Piaf. Alors ce soir, notre groupe est un peu décimé, sûrement par des bouts de virus, il paraît que ça se fait en cette saison. Mais nous avons quand même un invité au téléphone, il s'agit de Khaled Kaïdji, du collectif Plus Jamais Ça, que nous aurons par téléphone prochainement. Mais nous allons commencer par les chroniques de Jean-Marc, mais sans Jean-Marc, et vraiment sans Jean-Marc, vu qu'il nous les a envoyées par mail. Alors, pour la première, Gaël s'intitule...
Dans la jungle terrible, le colibri est mort ce soir. Tandis que tous les médias n'avaient d'yeux que pour la Thatcher à la française ou le troll à la Pétain, un homme discret, un homme avec un grand H, un homme qui avait tout compris bien avant que les vers n'existent est mort. Il s'agit bien entendu de Pierre Drabi, dont la pensée et l'humanité nous ont éclairé des décennies durant pour comprendre la nature, le vivant, le respect de l'autre, qu'il soit humain, animal ou végétal. Un homme doux et mesuré, à l'assurance bonhomme et tranquille de ceux qui touchent à l'éternité, un homme rare et utile, qui disparaît hélas au moment où la folie des hommes repart de plus belle, de nucléaire en glyphosate, de néonicotinoïdes en véhicule faussement écologique. Un sage meurtri par la vie, un sage aux cultures enchevêtrées, qui aurait tant eu à nous dire au moment où le ventre fécond de la bête immonde défecte ses rejetons dégénérés sur la scène politico-médiatique. Tu aurais pu tenir quelques années de plus pour nous filer encore et encore de ta force et de ta clarté. Toi qui aimais tellement la fraternité universelle, j'espère que tu trouveras une place au paradis des colibris.
Et oui, Pierre Drabi, décédé cette semaine. Et Gaël, tu continues à nous lire les chroniques de Jean-Marc. Et la suivante nous parle d'Asie, je crois.
Oui, des nouvelles routes de la soie et autres joyeusetés. La très populaire République de Chine n'en finit pas de nous épater. Entre son insolente réussite capitalo-marxiste, ses projets pharaoniques des routes de la soie ou encore la colonisation systématique de l'Afrique, sans oublier l'accélération de programmes sympathiques en matière militaire comme en matière de reconnaissance faciale. Un grand pays, pas du tout impérialiste, pas du tout totalitaire et pas du tout flippant, un bâtard improbable de Rockefeller et de Staline. Bref, la Chine, la RPC, la seconde patrie du camarade Raffarin, après avoir fait disparaître le mois dernier l'une de ses joueuses de tennis internationale, vient de pulvériser deux fois de suite son record de violation de l'espace maritime et aérien taïwanais. Champagne. Ce à quoi l'Union européenne répond « Quoi au fait ? Rien. Comme d'habitude. » Tandis que Poutine ricane en pensant à l'Ukraine et que les États-Unis décident de boycotter les JO d'hiver de 2022 qui auront lieu en Chine. En fait, presque boycotter, puisque les représentants US et les diplomates US bouderont les festivités, mais que les athlètes US participeront aux épreuves. Quel courage!
Alors, nous allons faire quelques petites devinettes. Alors, dans la foule des présents du studio, nous allons tenter de deviner, mais vous pouvez le faire chez vous aussi, deviner les candidats à l'élection présidentielle. Ce sont les devinettes de campagne de Jean-Marc. Alors attention, ça se fait un petit peu dans une émission aujourd'hui oubliée. Je suis une candidate. Mes propositions datent du milieu du XXe siècle quand elles ne sont pas empruntées à Marine L ou à Éric Z. Toujours pas, non ? Je parle d'améliorer la sécurité, mais je veux renvoyer tous les fonctionnaires. Je parle d'améliorer la santé publique, mais je propose des fermetures d'hôpitaux et de lits avec la complicité d'Anne H et de la PHP. Toujours pas trouvé ?
Non, je vois pas.
Alors, je prône l'écologie, mais je suis favorable au nucléaire, ainsi qu'à tous les projets de bétonnage d'espaces agricoles. Je suis ?
Non, je vois vraiment pas. Hein.
Alors, j'ai pas la réponse sur la feuille, mais quand même, on pense que c'est peut-être une candidate...
Ça commence peut-être par...
Valérie Pécresse. Alors, c'était pour chauffer, c'était un peu facile, un peu plus dur. Je suis une candidate qui a la grosse tête. Mes idées datent un peu. Et je veux passer pour plus verte que les verts. Mais la ville que je dirige se couvre de milliers de mètres carrés de béton, dont de nombreux bureaux, alors que la ville est pleine de bureaux vides. Je cherche à imposer une tour immonde et inutile et une barre de 300 mètres de long à côté de la gare d'Austerlitz. Vous n'avez toujours pas trouvé un petit coup de main.
Ça n'existe nulle part, ça.
Ce ne serait pas pensable de parler d'écologie. Un petit coup de main. Avant les dernières municipales, j'étais sur un siège éjectable, mais grâce au Covid, à l'abstention et à la branlette de Grimaud, j'ai été réélu. Et je me la pète. Je suis...
Ça me dit quelque chose. C'est pas... Hidalgo,
c'est ça, bravo, Hidalgo. Anne de son prénom. Allez, un petit cours, mais bon, on ne donnera pas la réponse, on a dit qu'on ne citerait pas son nom. Ah, j'ai déjà dit. Je suis un candidat ou une candidate, mes idées sont bon pétin, je n'ai aucun programme en dehors de dehors les bougnoules, mais ça suffit pour la politique économique, culturelle, artistique, sociale, étrangère, militaire, au moins c'est simple, je suis...
Ça me dit quelque chose. Ouais, quelqu'un qui est à la fois homme et femme, je dirais Marine Zemmour. C'est ça. Oui.
Tu as trouvé. Bravo, Gaël. Allez, je suis un candidat super écolo. Voilà, on plante le décor. Mais je ne veux pas trop taper sur le capitalisme pour ne pas faire pleurer mes amis. Et les potentiels électeurs, s'ils sont sociotraîtres. J'en fais des caisses depuis que j'ai gagné la primaire de mon parti. Pourtant, on ne parle pas bézef de ma pomme, mais c'est vraiment trop injuste. Je veux être calife à la place du calife et rassembler toute la gauche, mais les autres sont pas gentils avec moi. Il y a même un excité qui veut qu'on discute de programme, alors que, là, on est dans la 5ème République. Hein. C'est l'homme qui compte, non. Je suis...
Brice Lalonde.
Bravo. Non, mais c'était évidemment les élections de 1933. Je suis un candidat qui fait campagne aux frais de l'État. J'ai trahi à peu près tous ceux que j'ai eu l'occasion de trahir. J'ai fait campagne sur la probité, la modernité. Mes 15 ministres ou de mes proches ont dû démissionner les doigts dans le pot de confiture. Je me fais photographier trop cool avec des racailles à Walpé qui font des doigts d'honneur, mais j'ai une phobie du jeûne. Grâce à moi, les riches ont traversé la rue et toutes sont devenues beaucoup plus riches, tandis que les pauvres sont encore beaucoup plus pauvres. En même temps, ils l'ont bien cherché. Hein. Je suis cool, mais mon entourage est à 95% fait d'hommes, si possible énarques. Mais moi, je supprime l'ENA, je suis sa main sur le cœur.
C'est Sarkozy ?
Nicolas.
Ah, Nicolas Macron.
Nicolas Macron.
Alors, non, bien sûr, je l'avais sur le bout de la langue.
Voilà. Allez, un petit dernier. Je suis un candidat super branché, je parle super bien, je suis le seul à avoir un vrai programme. Cependant, des grincheux me reprochent de préférer la démocratie chez les autres que dans mon parti. Et certains disent que je pète trop souvent les plombs pour être crédible. La droite me reproche Cuba ou le Venezuela, tandis que des fumiers à gauche s'acharnent à dire que j'ai 30 ans de PS au compteur et qu'au niveau de sincérité, ça la fout mal. Je suis pourtant le candidat préféré de Jean-Marc.
Jean-Luc Chavez
en personne. Voilà, ce qui conclut les petites devinettes sur la présidentielle et les chroniques d'actualité de Jean-Marc. Alors, pour permettre d'enchaîner là-dessus, nous allons évidemment penser à des candidats que nous regrettons. Et nous regrettons évidemment le candidat de la gauche unie, Georges Marché, ce qui nous rappelle les Wampas. Quand je vois la France, ça me dit qu'il faudrait une droitière. Vous êtes bien sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, et vous écoutez l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, animée pour ce vendredi par des militants d'attaque et du journal Le Piaf. Et nous avons maintenant notre invité en ligne.
Et nous recevons donc Khaled Gaïji, président des Amis de la Terre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, fin août, le collectif Plus Jamais Ça, qui regroupe des syndicats, des mouvements écolos, des organisations de solidarité, ATTAC, la Fondation Copernic, a publié un plan de rupture avec la politique actuelle. Il s'agit de 36 mesures pour, je cite, répondre aux urgences tant sociales qu'environnementales et faire la démonstration qu'il y a des alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste et autoritaire, et que ces alternatives sont crédibles, désirables et réalisables. Alors, pour en discuter, nous te recevons donc, Khaled. Tu es président des Amis de la Terre, qui est une des organisations impliquées dans ce collectif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est constituée cette coalition ? Parce que c'est une coalition qui est pas vraiment habituel. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on n'imaginait pas voir ensemble des syndicats comme la CGT côte à côte avec des organisations écologistes pour faire des propositions.
Oui, alors du coup, plus jamais ça. Donc à l'origine, en fait, c'était une rencontre entre aux universités des mouvements sociaux, entre plusieurs personnes, notamment donc du coup, il y avait Philippe Martinez, Jean-François Julliard, Aurélie Trouvé, qui étaient présents en fait sur une table, et ils ont engagé des discussions en fait ensemble, et ils ont vu en fait qu'il y avait des éléments convergents entre eux, et après ça, en fait, ils ont continué à discuter ensemble. Nous, on n'était pas encore dans le coup au début. Et petit à petit, en fait, ils avaient signé une tribune, en fait, ensemble. Enfin, on a commencé, en fait, avec des tribunes. Et le 18 janvier, en fait, 2020, on a signé, en fait, une tribune ensemble pour dire que, l'urgence climatique, écologique et sociale, c'était clairement allié en fait les uns aux autres, et qu'on symbolisait ça par justement en fait notre alliance. Ça s'appelait pas encore plus jamais ça hein, à l'époque. Et on disait que voilà qu'on allait amener en fait des mobilisations ensemble avec toutes ces différentes organisations pour faire vite en fait. À la base, on était tous en fait aussi dans une période. Il faut se rappeler un peu le contexte. Donc en janvier 2020. On était avant le Covid et on était en fait dans une période aussi où il y avait eu donc le mouvement des Gilets jaunes juste avant, qui quand même avait chamboulé pas mal d'organisations. C'est venu très vite. Ça c'est quelque chose voilà qui fait qu'on n'avait peut-être pas tous assez bien réagi très vite qui a mis justement à se questionner, à s'interroger en tant qu'organisation. Et face à ça, il y a bien sûr toujours, donc là je parle plus de l'urgence sociale quand je parle des Gilets jaunes, mais il y a aussi, on voit que le gouvernement avait agi de façon à montrer en fait que fin du mois et fin du monde, c'était vraiment pas le même combat. Et nous justement, en fait, on prend le contre-pied de ça. Et je pense que le contexte en fait de cette alliance, c'était vraiment fait en fait par rapport à ça. Et après ça, donc du coup, il y a eu l'arrivée du Covid. En fait, nous, on avait bien sûr fait des réunions hein, suite à ces tribunes. On avait discuté, mais on pensait pas que les choses iraient aussi vite que ça. On savait qu'il y aurait ce qu'on appelle des moments d'accélération de l'histoire. Surtout qu'on vit des moments de crise quand même très forts. On parle d'urgence climatique et sociale, mais c'est vrai des vraies crises en fait que l'on subit déjà. Mais l'arrivée en fait du Covid. Nous a amené en fait, comme tout le monde, on a été un peu sidérés au début par l'arrivée de cette chose, on s'est posé ensemble et on s'est dit là il faut vraiment qu'on travaille très sérieusement ensemble tout de suite, d'où l'arrivée en fait donc d'une tribune qui s'appelle Plus jamais ça. On a élargi en fait des cercles à plus de 8 organisations, on est arrivé à 18 à ce moment-là. Donc voilà, c'est là où comme ça on a commencé justement à travailler en fait. Par des liens, on va dire, pour ouvrir en fait pour l'intérêt général, et aussi en fait en cherchant du commun entre nous plutôt que de voir nos différences.
Et donc, comment
c'est important.
Plus concrètement, comment vous avez travaillé, parce que c'est déjà il y avait le contexte Covid qui n'aidait pas à se réunir, mais si on veut rentrer un peu dans la cuisine du travail. Comment ça se passe, un travail en commun entre des organisations aussi diverses?
En fait, au début, on cherchait un peu aussi. On a travaillé sur des tribunes. On avait fait des groupes de travail. Il y avait des groupes de travail qui bossaient plus sur la reconversion, notamment dans la. On appelle ça la reconversion, mais ça ne fait pas toujours comme ça ailleurs. Mais en tout cas, sur cette transformation en fait, de l'industrie, cette relocalisation aussi qu'il y a à mettre en place. Donc c'était quand même, quand on travaille avec la CGT, c'était quand même assez intéressant aussi de travailler sur ces questions-là, avec Solidaire aussi, et la Confédération Paysanne, il y avait un autre groupe de travail qui travaillait beaucoup plus sur l'alimentation. Ça, je vous parle avant, en fait, l'arrivée du Covid. Donc, du coup, voilà, et en fait, quand il y a eu le Covid, on faisait des réunions en visio toutes les semaines. C'est quand même assez fou, et avec que, surtout les têtes de ces associations. C'est-à-dire vraiment, enfin, c'est vraiment venu. Je pourrais pas le décrire parce qu'en fait, on s'est tous dit qu'il fallait le faire. Enfin, on n'a même pas calculé des trucs. C'est venu comme ça. Il y a eu un moment d'accélération. On s'est posé tous ensemble, voilà, à faire des visios, à discuter, à dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, etc. Et d'où, en fait, on a commencé à se dire, OK, il faut qu'on mette en place un plan, justement, parce qu'on voyait que le gouvernement, il y avait quand même une forme de stratégie du choc, on va dire, à mettre en place encore plus de politiques néolibérales ou très sécuritaires et qui ne répondent pas à l'urgence sociale réelle, en fait, par rapport à la crise sanitaire du Covid. Et du coup, on a commencé à œuvrer, justement, à mettre en place, justement, des revendications communes avec les différentes organisations qui étaient en place. Donc, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle, nous, on a appelé deux cercles. Il y a le cercle, un peu le noyau fondateur, qui est composé des 8 organisations qui ont signé donc la première tribune et qui se réunissaient quasi de façon hebdomadaire, hein, pendant le premier confinement. Et après, il y a eu le deuxième cercle, on va dire, où là, il y a une, je ne sais plus combien est-ce qu'on est aujourd'hui dans ce deuxième cercle-là, mais on était 18 au début, qui avaient signé une tribune et qui ont travaillé sur ce plan. À l'époque, on l'avait appelé le plan de sortie de crise, où il y avait des mesures d'urgence, d'urgence sociale tout de suite qu'il fallait mettre en place par rapport, pour répondre à la crise, et aussi des mesures plus à long terme, qui étaient beaucoup plus voilà, au niveau social et environnemental.
Le plan d'urgence, c'était à quelle époque ?
Comment ?
Le plan d'urgence, c'était à quelle époque ?
Alors du coup, c'était en juin. Si je m'en rappelle bien, c'était en juin 2020 qu'on l'avait sorti. On avait bossé dessus, voilà, entre avril et juin, entre différentes organisations. Après, bon, la cuisine, comment ça s'est passé? Ben, en fait, je ne sais plus exactement dans les détails, mais on avait fait un document collaboratif sur Internet. Tout le monde a apporté de ses éléments, de son expertise. Il y a eu beaucoup les copains d'attaque qui ont, il y en a qui ont plus bossé que d'autres, hein, il faut le dire, et qui ont écrit plus que d'autres. D'autres ont contribué par des petits morceaux, des petites phrases à droite et à gauche. Mais surtout, on a tous validé ça politiquement dans nos organisations et on les a tous mis en place. Après, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, mais de mémoire, moi, je ne me rappelle pas qu'il y avait des choses qui avaient été remises en question fortement. Il y avait surtout des amendements, des améliorations parfois, mais tout le monde était assez d'accord en fait sur le contenu.
Et chaque organisation a réussi à entraîner sa base ce travail.
Alors du coup, en fait, chaque organisation a œuvré au niveau national et après, en fait, il y a eu un appel à former des collectifs locaux et en gros, on a appelé toutes nos bases, tous nos groupes locaux, toutes nos associations locales, toutes les bases en fait de ces organisations-là à s'approcher des autres organisations qui sont membres de plus jamais ça, à travailler ensemble et de faire des collectifs locaux et même s'il y avait des collectifs de citoyens à le faire. Du coup, je vous avoue qu'au début, on était un petit peu dépassés par tout ça, parce que du coup, il y a eu plein de collectifs, si jamais ça, qui se rendaient partout. On a dû faire un groupe de travail pour gérer ce processus-là. Du coup, en fait, il y a trois processus. En fait, il y a ce petit noyau qui s'est constitué, les autres organisations, on va dire nationales et fédérales, et des organisations locales qui sont vraiment très différentes les unes des autres.
Ça évite que ce soit juste un processus entre les têtes des organisations. Ça.
Oui, le but, c'était que ce ne soit pas qu'un processus entre les têtes des organisations. Ça, au début, on a impulsé, on va dire, le truc parce qu'on a commencé à discuter ensemble et à faire connaissance. Mais tout de suite, en fait, les organisations, toutes les organisations se sont saisies de ça et ont envoyé ça, en fait, ça vers leurs groupes locaux. Et après, il y a des groupes locaux où ça se des gens ils vont pas s'impliquer, d'autres ils s'impliquent. En fait, ce qui est marrant, c'est que localement, la nature des collectifs est très différente, mais il y a toujours des syndicats, des associations qui travaillent ensemble. Pour nous, c'était vraiment un symbole fort, en tout cas. Et parfois, on a des réunions ensemble où chacun montre un peu, enfin, explique un peu ce qu'il fait. Nous, par exemple, on s'était dit qu'au niveau national, c'était important que des fois, quand on prend la parole, qu'il y ait toujours une personne d'un syndicat et une personne d'une association, pour vraiment qu'on soit aussi dans cette mixité syndicale et associative, enfin, au sens environnemental du terme, là, pour les associations. Mais c'était aussi très important pour nous d'amener ça et que localement aussi, il y ait des syndicats, des associations qui bossent ensemble. D'accord. Moi, par exemple, j'habite en Essonne. Et en Essonne, les syndicats et les associations travaillent main dans la main. Et il y a plein d'actions qui se font Alors, moi, je n'y suis pas à titre personnel, hein, parce que je ne peux pas méditer partout à la fois. Mmh. Mais en tout cas, je sais que ça marche très, très bien. Là, ils ont mis en place même des campagnes locales. Donc, c'est vraiment chouette et c'est vraiment ça aussi l'objectif de plus jamais ça. C'est pas, en fait, on n'est pas un think tank. En gros, on a fait le plan de sortie de crise ou le plan de rupture, je pense qu'on en parlera plus longuement après, mais on a fait tout ça. Mais on est aussi des organisations citoyennes et de mobilisation. Et on ne veut pas perdre cette partie-là parce qu'on sait très bien que quand on va mener des luttes, on veut avoir des victoires. Et pour ça, il y a du rapport de force. Et quand on travaille ensemble, on arrive plus souvent à gagner quand même.
Alors, on parlera des luttes justement un peu plus tard. Là, je voulais revenir sur le contenu du plan de rupture. On aurait pu se dire que c'était facile, il suffisait de juxtaposer les propositions sociales des syndicats, les propositions écologistes des mouvements écolos. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une juxtaposition, mais il y a pas mal de propositions qui intègrent ensemble le social et l'écologie. Je pense par exemple à la transition écologique. Vous dites que ça doit être planifié dans chaque entreprise avec l'ensemble des travailleurs. Sur la justice fiscale, par exemple, vous parlez d'une justice fiscale qui soit à la fois sociale et écologique. Dans la proposition 22, vous parlez de cesser de soutenir à la fois ce qui pollue et ce qui détruit des emplois. Et puis en agriculture, ben, on retrouve la patte de la Confédération paysanne. Avec un objectif à la fois écologique un objectif de création d'emplois, un objectif écologique et un objectif social d'alimentation de qualité pour tous. Donc, il y a vraiment des mesures qui mettent ensemble le social et l'écologique. C'est quelque chose de nouveau ou que vous avez créé là, ou bien c'est une réflexion qui existait déjà un petit peu dans vos orgas auparavant?
Ça dépend des organisations. Nous, aux Amis de la Terre, la question sociale et écologique, elle a toujours été là dès le début. Après, je pense que les Amis de la Terre, c'est un petit peu différent d'autres organisations. J'imagine que, par exemple, des associations comme Greenpeace, à la base, on va dire, si vous revenez quelques années en arrière, elles n'étaient pas aussi axées sur les questions sociales, on va dire, qu'aujourd'hui. Et inversement, j'ai envie de dire, pour les syndicats aussi. Les syndicats, à la base, ils sont plus dans des logiques que j'appelle travaillistes, on va dire au sens où ça concerne quand même le monde du travail, même s'ils œuvrent pour l'intérêt général, mais ils restent quand même un syndicat par rapport à des travailleurs, pour la plupart. Et donc, du coup, on a vraiment... c'était aussi un des objectifs, c'est qu'on ne soit pas que dans des visions fermées chacun, dans cloisonnées, mais qu'elle soit aussi fédératrice au sens où elle mélange toujours les aspects sociaux et écologiques. Donc vous l'avez bien remarqué. Mais en fait, par exemple, ça en prend des mesures aussi, par exemple comme la réduction du temps de travail. C'est une mesure quand même assez importante, passer au 32 heures. Et c'est aussi une mesure écologique parce que bon, travailler moins, c'est quand même meilleur pour la planète. Donc du coup, en fait, on est vraiment dans des choses, libérer ce temps-là aussi pour du temps libre, etc. Je ne vais pas détailler, mais on est vraiment, en fait, on voit qu'il y a une convergence réelle à ce niveau-là. Quoi. Et au niveau oui, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu plutôt poser la question à des syndicats, mais je sais que pour eux, c'était quand même assez nouveau. Je prends un autre exemple, par exemple, la publicité. Le fait que d'avoir moins de publicité, par exemple, je pense pour des produits polluants, etc., c'est quelque chose quand même qui, je pense qu'au niveau d'un syndicat, moi, c'est la première fois que je vois des syndicats signer un papier, en fait, où il y a ça. Et ça, c'est vraiment novateur, et je pense que c'est révélateur d'un changement, en fait, dans notre société, et aussi du fait qu'on va vraiment contre, on va dire, ce que le système dominant, en fait, veut nous faire croire, en faisant croire que l'écologie, en fait, c'est du jardinage, c'est un truc de bobo, et que le social, en fait, c'est des gens qui polluent énormément, etc. Et c'est vraiment le sens, en fait, de ce qu'on voulait dire là, au niveau de ce plan, le plan de rupture.
Quand on regarde les mesures, il y a un certain nombre de mesures qui paraissent assez simples, de bon sens, et pas forcément très coûteuses. Je prends un exemple, par exemple, arrêter de soutenir ce qui pollue et ce qui détruit des emplois, ou séparer les activités de dépôt et d'affaires des banques. Bon, voilà, c'est quelque chose qui ne coûte rien du tout. Attendez, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt ?
Bah ça, c'est une bonne question, mais c'est pas à moi qu'il faut la poser. C'est au gouvernement qui était en place là. Et en fait, et depuis des années, en tout cas, au niveau des associations, on est plusieurs quand même à revendiquer ça. Quels que soient les gouvernements en fait, qui sont en place, je pense qu'il y a... J'avoue que je n'ai pas la réponse en fait, à cette question. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas bougé alors que ce n'est pas très coûteux ? Mais en tout cas, on observe qu'il y en a eu beaucoup qui ont fait des promesses aussi au niveau électoral. On se souvient de mon adversaire sur la finance, des choses comme ça. Et qu'en fait, une fois arrivé au pouvoir, ben, en fait, ces gens-là ne font pas du tout ce qu'ils ont dit. Et ça, il y en a un paquet, en fait. Et c'est ce qui nous a toujours nous dérangé, en tout cas au niveau des politiques, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont faire des choses, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, donc ils ne font pas ce qu'ils disent. Et je parle aussi bien pour la gauche que pour la droite, hein, là, pour le coup, pour une droite modérée, on va dire plutôt. Mais en tout cas, on voit, en fait, à ce niveau-là j'avoue que je n'ai pas la réponse encore une fois de pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça. Alors, c'est pas très coûteux. Et alors qu'entre guillemets, il n'y a que des bénéfices sociaux et écologiques derrière ça. Ça, il faudrait leur poser la question.
Bon, alors si on ne trouve pas la réponse au pourquoi, on va essayer de trouver la réponse au comment ensemble. Juste après une petite pause musicale, on va voir comment justement on peut transformer ce plan en action. Et la pause musicale, Pierre, c'est...
Eh bien évidemment, vu que la couleur politique, elle est clairement rouge, et bien on va écouter San Severino, Rouge. Et vous êtes sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, et vous écoutez l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, qui est animée ce soir par les journalistes militants du journal Le Piaf et des militants de l'association Attaque. Et nous poursuivons avec l'interview de notre invité.
Voilà, et nous sommes toujours donc avec Haed Gaïji, des Amis de la Terre et du collectif Plus Jamais Ça, pour discuter du plan de rupture politique. Alors ce plan, il aborde un vaste ensemble de sujets, la santé, les droits, les libertés publiques, la protection sociale, le service public, la transition écologique, la solidarité internationale, la finance, la justice fiscale, l'agriculture. Vous avez juste oublié les thèmes importants de la campagne quand même, qui sont l'identité nationale, la sécurité et la lutte contre l'immigration. Finalement, trêve de plaisanterie, toutes ces propositions, elles constituent presque un programme de gouvernement. Alors, est-ce que les ONG, les syndicats, les associations écolos sont toujours dans leur rôle en faisant ça ?
Oui, nous sommes dans notre rôle en proposant des choses, en tout cas à la société pour faire changer le monde et aux gouvernants, oui. Donc du coup, on est complètement dans notre rôle, mais ça n'empêche pas qu'on peut être aussi un contre-pouvoir. Et qu'on est aussi dans ce rôle-là par rapport à un pouvoir dominant existant. Ouais. Enfin, d'ailleurs, je repensais un peu à la question que vous avez posée juste avant. Pourquoi est-ce que ça ne changeait pas ? Même peut-être parce qu'il y a un pouvoir quand même capitaliste ultra puissant. En tout cas, depuis le 19e siècle, ils sont quand même très présents. Et que ce pouvoir-là, il a un pouvoir d'influence quand même. Enfin, il arrive quand même à influencer quasiment en fait, nos normes dans la société. C'est peut-être que c'est ça aussi qui empêche en fait les bonnes personnes d'avancer en tout cas dans le bon sens. Sinon pour revenir voilà du coup en tout cas nous on pense qu'on est vraiment dans notre rôle en faisant des propositions en montrant des pistes parce que en fait le Conseil national de la résistance en 45, qui faisait aussi des propositions pour la société, et ça a été des socles en fait importants dans une période en fait post-crise, enfin post-guerre en tout cas à l'époque, et on est vraiment dans cette vision-là que si on veut en gros, si on lutte, c'est pour changer des choses, c'est pour des choses et non pas seulement contre des choses, et pour nous c'est assez important. Ouais.
D'accord. Donc vous êtes bien dans votre rôle de contre-pouvoir. Alors, ce plan, comme je le disais en introduction, il a vocation enfin, ces propositions, elles ont vocation à être reprises par le pouvoir. Est-ce que, dans ce contexte de campagne présidentielle, vous avez eu des échanges avec les candidats, et est-ce que vous avez des retours parmi les nombreux candidats qui se présentent ou qui voudraient se présenter?
Alors, pour l'instant, on va dire que ce plan, on l'a pas vraiment adressé aux candidats. On a adressé déjà à nos bases pour qu'il soit discuté, au fait aussi au sein de nos bases, pour qu'il fasse débat dans la société d'abord, avant tout. Bien sûr, après, les mesures, elles ont vocation donc à être proposées à des candidats, des candidates, mais pas, enfin, à des organisations politiques aussi, mais pas seulement. C'est aussi, les fiches pour l'instant qu'on a mis en place, elles ont plus une vertu pédagogique, parce que on sait aussi une chose, c'est que on peut aller s'adresser à des candidats, des candidates et des candidats, enfin, bon, des candidats pour l'instant, mais on peut aller s'adresser à eux, mais il y a aussi une bataille culturelle à mener dans la société, il y a aussi une pédagogie à avoir en fait, on pense pas qu'il faut changer le système par le haut, mais il faut aussi changer le système par le bas aussi. Et c'est justement en touchant aussi les bases qu'on arrivera à changer aussi ces choses-là au niveau des politiques. Donc pour l'instant, on est vraiment plutôt sur un travail de terrain, avant tout, qui se symbolise dans nos luttes et dans nos mobilisations. C'est-à-dire que nos mobilisations, elles sont reliées en fait à des mesures. Donc voilà, enfin, par exemple, si aujourd'hui, la première mesure qu'on a proposée, c'est de lever les brevets sur les vaccins Covid, par exemple, et c'est des choses vraiment qui sont présentes aussi sur le terrain aujourd'hui, dans la société, et c'est aussi par rapport au pays du Sud que c'est très important aussi, quoi. Donc je sais pas si j'ai...
Oui, non, je vois la démarche, c'est plus...
Mais, en tout cas, on n'est pas allé s'adresser pour l'instant à des politiques, parce que quand on va s'adresser à des politiques, on va pas faire ça de façon bilatérale. En plus, on est quand même au moins 8 organisations à être là. Il y a 18 organisations, plus de 18 organisations, pardon, derrière. Quand on va s'adresser à des politiques, on fait gaffe, on se prépare bien. Et pour l'instant, on s'est dit que c'était pas le bon moment, en tout cas, d'aller les voir sans qu'on ait aussi clarifié ce qu'on veut faire avec eux ou des choses comme ça.
D'accord, parce que c'est assez classique dans les campagnes présidentielles que différentes organisations présentent des propositions aux candidats. En général, c'est dans un champ assez restreint qui est leur champ précis d'intervention. Voilà, on pourrait tout à fait imaginer que ce collectif présente ses propositions générales aux candidats.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on impulse des initiatives qui peuvent aller vers ça. Après, c'est aussi, est-ce que on veut présenter toutes les propositions d'un seul coup au candidat. Enfin, voilà, on est en train encore de discuter aussi de la méthode, parce que si on dilue ça en fait dans 36 000 propositions, c'est quand même discutable. Est-ce qu'il en faut genre 10, 5 mesures phares qui sont plutôt importantes pour nous, des choses comme ça. Donc du coup, c'est vraiment sur ces choses-là qu'on est encore en train de discuter aussi entre nous. Il est prévu, bien sûr, de discuter avec les politiques. Mais pour l'instant, là, on discute déjà avec la société, on discute déjà entre nous. Et à partir de là, en fait, on pourrait y voir plus clair pour la suite.
Alors, comme vous le dites dans le document, ces propositions, elles ont vocation à alimenter les débats, à alimenter les mobilisations. Mais dans ce contexte d'élection présidentielle où toute l'attention est concentrée sur les candidats, justement, pour que des organisations de la société civile puissent toucher le grand public, qu'est-ce que vous prévoyez justement pour toucher tout le monde au-delà des militants?
Alors, bah, du coup, là, il y a des choses que je ne peux pas dire, parce que toutes les actions ne sont pas publiques, ça fait sous embargo. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va interpeller la société et les médias, et on pense qu'on peut y arriver. Même si on voit que l'attention médiatique aujourd'hui est plus focalisée sur des idées d'extrême droite, on va dire pour faire vite, nous, notre objectif, justement, c'est que notre rôle, on pense, justement, il est plus au niveau de la société. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui portent nos revendications, ils n'arriveront pas au pouvoir de toute façon sans nous. Je reprends un peu un texte d'Actes de l'époque qui dit « Nous sommes la gauche ». Mais voilà, en gros, en fait, nous, on va vraiment jouer notre rôle dans la société. Il y aura des mobilisations, il y aura des marches, il y aura des manifestations, il y aura d'autres types d'actions qui vont arriver en fait dans les mois qui viennent. Et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que quand on discutera politique dans les mois qui viennent, on parle plutôt justement urgence écologique, urgence climatique et sociale, plutôt que de parler, et liberté j'ai envie de dire aussi d'ailleurs, plutôt que de parler d'identité nationale ou de choses que dans le genre. On voit souvent ce genre de débat émerger en fait, l'agenda politique, on va dire, de droite et d'extrême droite. Mais nous, vraiment, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant ça. C'est pour ça qu'on est parti des mesures d'abord. Et à partir de ces mesures-là, en fait, on va essayer vraiment de les mettre en place dans la société via des mobilisations concrètes. Et qui, elles, seront, on le pense, médiatisées, oui. Mais voilà, quand on arrive et qu'on fait des grandes mobilisations, comme je dis, des grandes marches, on montre justement que nous on récupère la main et j'ai envie de dire on va faire ce qu'on sait faire, on va pas aller faire des choses que nous on sait bien faire, si je veux dire, la mobilisation citoyenne par exemple pour pas mal d'organisations on sait bien le faire et je pense qu'on restera vraiment sur ce terrain là et les choses se passeront aussi au niveau territorial. Il y a des collectifs locaux qui sont en train d'œuvrer, comme j'ai dit, avec des campagnes, des batailles locales qui sont en train d'être menées et ces batailles là en fait elles vont se poursuivre dans l'année qui vient, et même après les élections. En fait, de toute façon, le truc, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que quels que soient les candidats qui seront élus, nous, on n'arrêtera pas. En fait, on continuera à travailler ensemble. Cette union qu'on a construite en fait aujourd'hui, elle continuera encore après les élections, quels que soient en fait les gouvernants qui sont en place.
Alors pour préparer ces mobilisations à venir, comme tu peux l'imaginer, beaucoup de nos auditeurs sont soit des militants ou des adhérents des organisations participantes, soit des gens qui seraient peut-être prêts à s'impliquer dans les comités locaux. Donc pour conclure cette interview, quel message tu pourrais adresser à ces auditeurs?
Bah, déjà, en fait, on a beaucoup parlé du plan de rupture, donc je vous invite à le lire, hein, d'aller voir sur le site internet plus-jamais.org pour voir qui en est, voir là où on a des collectifs locaux et le rejoindre. Parce qu'en fait, en tout cas, je sais juste une chose, c'est que moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que quand on a travaillé avec des syndicats, enfin, moi en tant qu'associé, que personne qui est dans une association environnementale, je me suis rendu compte en fait à quel point on avait des choses en commun. On a été en fait faire une action par exemple il y a quelques mois sur la chapelle d'Arblay. Et du coup, il y avait les gens de Solidaire, de la CGET, de la FSU, il y avait nous avec Greenpeace qu'on connaissait déjà, etc. Et en fait, on a fait l'occupation, on est resté toute une journée à discuter ensemble et ça, c'est des liens qui se construisent. Et finalement, à la fin de la journée, on se dit, en fait, c'est fou, on pense exactement la même chose sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. Et en fait, on veut dire, faites des collectifs plus jamais ça, appelez-le autrement si vous voulez, mais travaillons en fait ensemble, en tout cas avec les organisations écologiques, féministes, sociales et antiracistes, ensemble en fait, parce que vraiment, c'est dans la lutte, en mettant les mains dans le cambouis ensemble, qu'on se rend compte qu'on est tous pareils et que qu'on est ensemble, mais forcément, c'est qu'on peut arriver à changer beaucoup de choses, et notamment en finir avec le désordre néolibéral. Donc moi, c'est le message que j'ai envie de leur envoyer, c'est voilà, n'hésitez pas à faire des luttes. Moi par exemple, le collectif Plus Jamais Ça localement, là où je suis en Essonne, en fait, nous, les amis d'Atterre Essonne, on lutte contre un data center Amazon qui allait se mettre en place. D'ailleurs, on a gagné cette bataille. Et bah, c'était super d'avoir les copains de la CGT qui sont venus avec nous, de Solidaires, d'Attaque, et de, et voilà, de, bah, qui viennent à une manif avant qu'on a organisé, qui relaient nos pétitions. Et nous, pareil, en fait, quand il y a une lutte sur un hôpital à proximité, par rapport à des droits des travailleuses et des travailleurs, bah, on, du coup, on y va aussi. Et ça, bah, on découvre aussi des, d'autres réalités que les nôtres. Et je pense que ça, va, ça fait vraiment du bien de se rendre compte aussi de ce qui se passe pas loin de chez nous. En fait, à ce moment-là, moi, je sais que, par exemple, j'étais dégoûté parce que, à titre personnel, là où j'habite, il y avait à l'époque, en fait, parce qu'on avait, on n'avait pas d'espace de discussion commun, bah, il y avait en fait des Gilets jaunes qui tenaient le rond-point de Grigny, Grigny qui est la ville la plus pauvre de France. Et en fait, je m'en suis rendu compte après que le mouvement soit fini. Et il vaut mieux qu'on fasse connaissance avant que des mouvements ne s'éteignent, ou qu'ils soient en gros moins connus, plutôt que il vaut mieux faire lutter maintenant ensemble, en fait, plutôt que d'attendre la grande catastrophe. Quoi.
Mmh. Bien, merci pour ce message d'union et d'espoir à la fois. Et merci pour ta participation à notre émission.
Merci à vous.
Merci. Alors on va écouter, pour prolonger la réflexion, les Goguettes qui nous parlent d'écologie avec un peu de sentimentalité. Ça donne Fuel Sentimental.
Oh là là, la vie en verre, tout le verre qu'on nous sert. Les étoiles à voile, à vélo ou à cheval, fuel sentimental. Le pétrole c'est capital, pour le capital.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et vous écoutez Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires.
Et pour terminer l'émission, nous allons vous faire quelques petits points par le détail, par quelques chiffres tirés d'alternatives économiques, d'analyse, de chiffres qui permettent de réfléchir. Par exemple, un premier qui s'intitule donc dans l'alternative économique de cette semaine, le « quoi qu'il en coûte » n'a pas coûté si cher. Donc le fameux « quoi qu'il en coûte » de notre cher président, qu'il a fait apparaître pratiquement comme une personnalité paternaliste, voire même, on aurait pu penser, d'une certaine vision sociale. Finalement, quand on réfléchit en économiste, quand on réfléchit en bon père de famille de droite, finalement, bah non, c'était la mesure à prendre, et certainement que les économistes de son entourage ont déjà fait le calcul. Bon, maintenant, avec le recul, c'est facile à analyser. Par exemple, donc très clairement, la chute du PIB, donc le critère principal d'analyse que l'on utilise, a bien moins chuté que prévu. Par exemple, au troisième trimestre 2020, il n'a perdu que 17 points, ce qui est des choses assez énormes par rapport au quotidien de ces dernières décennies, mais par rapport à, en comparaison à l'année précédente, hein, semestre 2019. Alors que les calculs les plus optimistes prévoyaient 37 points de chute. Donc le quoi qu'il en coûte a permis de sauver ce PIB. Alors vous allez me dire, on s'en moque du PIB, mais les analyses vont quand même dire que le PIB est relativement corrélé, par exemple, à la dette. Hein, si une telle chute de la dette aurait pu entraîner jusqu'à 45% d'augmentation, il n'a pris finalement, au printemps 2020, que 15%. Donc si on fait les comptes en matière de finances publiques, la réponse à la crise financière, par exemple celle de 2008, qui n'avait pas pu être prévenue, contrairement à celle-là, on a finalement des ordres finalement comparable, alors qu'elle a duré, plus d'un an, etc. Et pareil sur des chiffres comme l'activité partielle. Hein, la contribution d'État à permettre de continuer l'activité partielle a été de 32 milliards, des chiffres impressionnants. Mais sans elle, beaucoup de personnes auraient perdu leur emploi. Les estimations sont plutôt de 27 milliards d'euros pour les dépenses d'assurance chômage. Bon, c'était avant la réforme. Et ces travailleurs auraient mis du temps à retrouver un job, ce qui aurait peut-être alourdi des calculs qui disent 6 milliards, donc 33 milliards, finalement, ben l'un dans l'autre. Ben, finalement, Macron, sans être de gauche, il a fait ses petites équations d'épicier de droite, et ça a marché. Un autre petit chiffre, Par exemple, les fonds verts. Vous connaissez les fonds verts, là, c'est ce que vous propose, si notamment dans vos boîtes aux lettres, votre banque préférée, voire même celle que vous n'aimez pas, qui vous propose des fonds verts. Vous pouvez investir de l'argent, toutes vos bonnes économies, pour aider la planète. Alors, si on regarde l'augmentation du nombre de propositions sur le marché, à travers les 5 dernières années, ben, on passe de 150 à 250. Donc, on a de 150 à 400. On a une belle augmentation du nombre de fonds qui sont proposés. Et le volume de marché correspondant, lui, et c'est ce que je cite à l'instant, on passe de 150 de 0 à 200, parce que ça n'existait pas avant 2015. Donc, une belle augmentation de cette présence de fonds verts. Mais question, est-ce qu'ils sont si verts que ça? Alors là, il faut analyser un peu plus finement, bien entendu. Par exemple, d'autres fonds sont dits bas carbone, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des gestions basées sur l'objectif de réduction d'émissions de carbone dans la production industrielle qui va être financée et aidée par le marché grâce à la banque. Mais là, on a une non-prise en compte dans le calcul de tout ce qui va être indirect. C'est-à-dire que si l'investissement lui-même est purement décarboné parce que l'entreprise dit « on va arrêter de faire ci ou faire ça », ce n'est pas pour autant qu'ils ont une norme derrière. C'est qu'ils vont prendre des sous-traitants. Ils vont prendre des activités externalisées. Et finalement, il n'y a aucune crédibilité possible sur ces fonds qui ne mettent en avant que le bas carbone. Beaucoup mettent aussi en avant de la R&D, de gestion... là-dessus, mais c'est purement spéculatif. Il n'y a que ce jour aucune norme qui permette de dire si un fonds est vert ou pas. Alors bon, bah, faites confiance à votre banquier, comme d'habitude. Un autre pour la route, l'emploi. Sur cette période où on craignait peut-être le pire après le confinement, bah, un chiffre qui quand même fait plaisir à pas mal de monde, c'est la chute du chômage, hein, qui est donc, comment on l'a en tête, chuté jusqu'à être actuellement à 7,5. Et on peut se rappeler qu'on n'était pas dans ces situations il n'y a pas si longtemps. On était même mi-2021 avec un déficit de fin par rapport à 2019 de 23 000 emplois. Et puis, bah, ça a décollé. Hein, ça a décollé jusqu'à cette fin d'année. Alors, ben, les économistes se posent des questions sans réponse à ce jour, hein, avec, par exemple, des différences fortes. Par exemple, la métallurgie a chuté, et la métallurgie française avec elle. L'automobile, des moins 18 000 emplois, moins 11 000 d'emplois. Ce qui fait qu'au total, c'est 48 600 emplois qui ont chuté. Mais ce chiffre-là, il n'est pas spécifique au Covid. Il était là depuis très longtemps, vu que toute l'industrie française s'écroule. Et les grands secteurs, par contre, ont donc compensé. La construction, plus 65 000 emplois. La santé, vous pouvez l'imaginer, plus 64 000 emplois. Le commerce de détail, plus 26 000. L'informatique, plus 18 000. Ce qui compense aussi les pertes de l'hôtellerie, à moins 25 000. Et la culture, loisirs, à moins 8 000. Et un petit dernier pour la route. Alors celui-là, c'est toujours quelque chose qui fait très compliqué à vouloir comprendre, mais les fonctionnaires produisent aussi des richesses. Par exemple, il est estimé que l'ensemble de l'administration publique fournit à peu près un cinquième de la valeur ajoutée nationale. Alors, si on veut rentrer un petit peu dans les explications, la première, c'est que l'administration publique produit des choses par elle-même. Hein, par exemple, elle va produire des services, des biens, qui ne seront pas vendus, comme dans le privé, ils seront fournis gratuitement, à l'instar du travail d'un magistrat, d'un policier qui fera de la surveillance, de l'enseignement, qui font aussi parfois de la surveillance, mais aussi et surtout de l'éducation et de l'enseignement. Les soins des hôpitaux, c'est des soins, on peut les chiffrer, on peut donner l'équivalent, et ben, la valeur ajoutée de la fonction publique, c'est 390 milliards d'euros en 2019, ce qui fait dans les 2160 milliards d'euros de valeur ajoutée, soit 18%, de la part de ce part de marché. Et encore, c'est des calculs restrictifs si on part juste de cet apport de biens, parce que ça ne tient pas compte de tout ce que les entreprises publiques apportent comme infrastructure à l'activité productive globale. La Sécu elle-même produit énormément à l'activité en permettant ben, aux employés et aux fonctionnaires et aux travailleurs d'être soignés et pratiqués à coût faible, voire nul, dans les hôpitaux. Et si on comparait ça à des soins pratiqués par les médecins libéraux entreprises, on peut voir l'apport non négligeable dans les choses. Voilà, donc au-delà de l'approche comptable, ce qui est toujours intéressant, c'est que c'est sous-évalué, c'est-à-dire que ce 1/5 de la valeur ajoutée nationale, ce n'est qu'une part. Donc vivent les fonctionnaires qui produisent des richesses. On a une annonce.
Eh oui, dimanche, qu'est-ce que tu fais, Pierre ?
Je sais pas, j'ai un chat, il est très mignon.
Eh bien, tu lâches ton chat, parce que dimanche, à la radio, c'est la fête des médias libres. C'est de 14h à 22h, il y aura des témoignages, une table ronde, la projection de FPP, le film, qui sera à 19h. Et vous aurez plus de détails sur le site web de la radio, rfpp.net.
Et ça termine notre émission. Alors, on remercie à distance les chroniques que nous avons lues de Jean-Marc, mais nous remercions surtout notre invité, Raled Kaidji, du collectif Plus Jamais Ça, que nous avions à l'antenne. On remercie Gaël aux chroniques et surtout Claude à la technique. Et pour terminer, nous écoutons pour finir le groupe de Julian Diane Kinkett pour la chanson Shinjuku Nemura Nai.
Oh yes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. So, Shinjuku.